Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foutre. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean et Sid pour une émission qui va être chargée à bloc parce que, ben oui, il y a eu le début de la saison du CF Montréal, début de saison MLS pour 2021 qui commence un peu plus tard que d'habitude. Mais évidemment, la grosse nouvelle qui a fait trembler la planète foot pendant 48 heures. Après, ça s'est replacé un peu. C'est cette annonce de Super League qui allait voir le jour, qui est maintenant morte dans l'œuf, du moins. C'est ce qu'on déduit avec ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, parce que ça brassait avec des propriétaires qui voulaient se lancer dans une nouvelle aventure, des entraîneurs qui n'étaient pas tout à fait d'accord, des fans qui ne l'étaient pas du tout. On en discute, les gars, si vous le permettez. On répondra aux questions qui nous ont été posées sur Twitter un peu plus tard dans l'émission, comme on le fait en fin de Loin de s'en foutre à chaque semaine avec notre segment des sujets chauds. Mais d'abord, commençons avec notre segment en temps additionnel. On va le faire les choses dans le désordre. Vous comprendrez pourquoi. Jean, la Super League dont tu nous parles depuis des mois et des mois, qui semblait des fois une utopie, des fois un rêve lointain, d'autres fois un souhait, ben là, depuis la dernière émission, c'est tombé. On avait la ferme intention de pas juste de mettre sur papier, ça c'était déjà fait, mais de mettre en action le plan de match pour la Super League. Là, maintenant que tout ça est tombé à l'eau, du moins pour le moment, quelle conclusion on peut tirer de tout ça?
La première, c'est qu'il y a réellement un problème. Il y a un problème dans l'organisation du football de club en Europe. Parce que la base, oui, c'est certain que ces clubs-là voulaient gagner plus d'argent, mais au départ, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient reprendre le contrôle des compétitions, c'est-à-dire décider eux-mêmes et gérer eux-mêmes comment l'argent venait et comment le redistribuer ensuite. Et la grogne principale vis-à-vis de l'UEFA, c'est que l'UEFA encaisse l'argent, en particulier des sponsors et des diffuseurs, le redistribue un petit peu comme elle veut, mais sans prendre aucun risque. Ce sont les clubs qui prennent les risques, ce sont les clubs qui payent les joueurs, qui investissent dans les infrastructures, qui font des stades aux normes que demande l'UEFA, etc. Ce sont les clubs qui prennent, disons, les risques financiers. Et l'UEFA, elle, se contente. Là, je suis encore en train de reprendre la rhétorique des clubs, hein, en particulier telle que présentée par Andrea Agnelli. L'UEFA récupère l'argent en caisse, redistribue à certaines fédérations membres, mais n'est finalement pas responsable de grand-chose. C'est ce que les clubs voulaient absolument récupérer. Ça, c'est pas réglé, clairement. Le problème est toujours là. Ça, c'est la première conclusion. Il existe un problème, et un problème qui va devoir être à un moment présent et être abordé. L'autre chose, c'est qu'il existe une véritable vague de fonds pour préserver ce qu'on a appelé l'héritage des clubs, que ça a été vraiment quelque chose, un cri du cœur. Mais c'est un cri du cœur qu'on a vu surtout en Angleterre, qu'on a beaucoup moins vu en Espagne et en Italie. Il y a eu beaucoup moins de manifestations autour des clubs. Donc ça, c'est aussi quelque chose à voir un petit peu. Troisièmement, qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un développement dans le sport tant que le politique, voilà, tout de suite. Et ça s'est vu dès le premier jour avec Boris Johnson, avec Emmanuel Macron, avec le Premier ministre italien qui ont pris position. Et qu'au bout du compte, si tu regardes l'absence de l'Allemagne et de la France, en particulier du PSG et du Bayern dans le projet, a été probablement une des raisons principales de son échec.
Ouais, c'est ça montre à quel point, si tu tires ces conclusions-là, c'est un dossier complexe. Maintenant, du fait que ce soit tombé à l'eau, tu tires quelle conclusion, Sid?
Que ça tombe à l'eau, c'est que c'était mal ficelé, c'était pas un projet. Peut-être que les problèmes sont bien identifiés, encore que là, je pense que c'est assez discutable. Mais les solutions sont pas les bonnes. On a des clubs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes backgrounds, les mêmes contextes culturels, politiques. Et je pense que c'est un petit peu naïf de la part de Florentino Pérez et de Agnelli de croire que tout le monde serait serait sur la même longueur d'onde juste pour faire plus d'argent. Il y a un peu plus que ça dans le foot. Donc, je pense que c'est surtout ça, un projet qui malgré que apparemment date de 3 ans de gestation, même si genre, comme Jean pourra mieux le dire que moi, le G14 de Berlusconi au début des années 90 ou encore d'autres réformes qui a eu lieu en 2000 pour la Ligue des Champions, montre que c'est un serpent de mer cette idée-là et qu'elle reviendra sûrement. Mais essentiellement, c'était un projet qui était mal ficelé et qui est tombé aussi rapidement qu'il a émergé publiquement.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais là, je sais, on ne peut pas dire que c'était une mission américaine. Mais il y a quelque chose de très américain aussi dans la façon de vouloir organiser la compétition. Et là, je ne parle pas de faire de l'argent, mais vraiment d'organiser cette compétition-là où tu aurais eu 15 clubs fondateurs, 5 places données, on ne sait pas trop comment. Là. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus que vous avez vu passer, mais ça restait très, très flou. Des 5 places, écoute, il y a 1000 clubs pro en Europe. Je comprends qu'on n'est même pas, on est pas proche d'avoir 1000 clubs compétitifs pour accéder à la Ligue des champions. Mais quand même, c'est ça qui nourrit le rêve de tous ces clubs-là de se ramasser en Ligue des champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là, c'est ça qui a été mal saisi de la part des propriétaires américains en particulier. Cette idée-là que, ici, autant que tu ne peux pas comprendre qu'on installe la promotion-relégation, parce que je pense que le marché ne comprendrait pas et accepterait pas. À partir du moment où tu es déversé en deuxième division, tu serais considéré comme un produit de second ordre. Tu n'aurais pas un stade plein, comme ça a été le cas en Championship pour Leeds United avec Bielsa, ou comme ça a été le cas à l'époque avec Newcastle, même chose avec Sunderland. Cette idée-là de toujours avoir besoin d'un enjeu, que les supporters carbure à ça, à quelque part. Il y en a beaucoup qui passent dans le tordeur émotif parce que c'est un calvaire, suivre leur équipe, mais ils échangeraient ça pour rien au monde. L'idée de commencer la saison en te demandant « Je vais-tu être relégué? » Il y a quelque chose, il y a un thrill là-dedans, il y a quelque chose d'excitant. Puis après ça, quand ça va mieux, et au bout de 10 ou 12 matchs, tu te dis « OK, cette saison, je ne serai peut-être pas relégué. Attends, est-ce que je peux accrocher une place en Europe? » Là, c'est la Ligue Europa. Après ça, c'est la Ligue des champions. Une fois que tu es en Ligue des champions, puis que tu es un gros club, ben tu te dis là, on ne veut plus être déversé. Souvenez-vous, pendant combien de temps Arsenal, on n'en parle même pas de cette année, mais Arsenal, c'était le top 4. Mais là, tu as un tiraillement entre est-ce que le top 4, c'est satisfaisant parce que oui, on est là parmi les grands, puis on fait de l'argent, puis c'est glamour, mais dans les faits, on n'est pas compétitif pour vrai pour gagner la Premier League. Tout ça, là, faut que tu vives le soccer en Europe pour comprendre à quel point ça a l'air un peu tout croche et très dysfonctionnel de vouloir vivre ces émotions-là, mais c'est à ça que carbure le soccer en Europe. Puis à mon sens, de vouloir faire une ligue qui était aux trois quarts fermée, Jean, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est là où on a vu, à mon sens, complètement faux, parce que tu es en train de dire, oubliez tout ça, là, on achète notre billet. On va être là année après année, peu importe les compétitions puis les rivalités qu'on pourrait avoir avec les clubs en compétition domestique, qu'on va, c'est ce qu'on présumait, ben, considérer comme une compétition de deuxième ordre. Pas celle qui nous donne accès à la compétition privilégiée, parce que ce qui nous donne accès à ça, ben, c'est notre compte avec JP Morgan.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, on a beaucoup... Dans tout le débat depuis 3 jours, là, on parle énormément des différences et d'exemples au niveau du sport nord-américain. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu un peu de tout et n'importe quoi. La première chose qu'il faut expliquer d'abord, c'est que ici, dans les ligues, donc les ligues majeures qu'on connaît, tout le sport, tout l'univers gravite autour de ces ligues-là. Et c'est une construction qui a été faite autour de ces ligues-là. Et non l'inverse, comme on aurait pu exactement avoir avec cette Super Ligue européenne, qui ne serait que, en fait, l'aboutissement, mais de plusieurs facteurs qui existent déjà depuis longtemps, depuis plus de 100 ans pour certains. Donc, cette Super League-là n'aurait jamais été le véritable centre de l'univers, du foot en Europe. Deuxièmement, quand tu regardes un petit peu la structure du sport ici, tu regardes par exemple en NBA, tu prends les clubs, les participants, tu t'aperçois que 2/3 d'entre eux ont déjà gagné, par exemple, un titre. Ce qui n'est pas le cas du tout quand tu démarres en Ligue des Champions, où il y a peut-être à peine la moitié d'anciens vainqueurs. Pourquoi? Parce que les sports ici sont faits pour que d'année en année, non, il n'y a pas de promotion relégation. Par contre, il y a une remise à niveau de certaines valeurs, de certaines qualités qui font que chacun peut prétendre gagner. Disons, une équipe peut connaître des cycles un peu moins bons de 2-3 ans, mais l'idée derrière, c'est qu'elle soit capable de rebondir et que sur le moyen terme, elle soit capable de remporter un titre. Ce qui n'est pas du tout le système qu'on peut voir en Europe, quelle que soit la masse d'argent que tu peux influer dedans. Écoute, il y a plusieurs éléments qui sont clairement différents. Dans le sport américain que tu as aussi, l'autre chose aussi, c'est que il n'y a rien d'autre qui existe autour dans la mesure où tu as les meilleurs joueurs dans des sports très, très, très précis. Tu as regroupé les meilleurs joueurs dans un environnement vraiment encadré et parfaitement défini. Ce n'est pas le cas même de cette Super League, parce que à partir du moment où tu n'auras pas l'Ajax Amsterdam, où tu n'auras pas Porto, ou bien tu n'auras pas Séville, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher les joueurs de ces équipes-là? Mais je ne suis pas persuadé que ça puisse fonctionner comme ça non plus, parce que là encore, tu aurais créé un statut de joueur un petit peu différent. Parce que Super League, tu aurais créé un statut de super joueur. Donc ça aurait été encore une autre problématique, je veux dire.
Sid, on a essayé de vendre cette idée-là comme un projet qui allait satisfaire les jeunes qui veulent plus voir des grosses affiches, qui veulent voir des grosses affiches plus souvent. Est-ce qu'on a un peu pris les jeunes pour des cons en pensant que, là, c'est deux clubs que j'apprécie, un entre autres qui a une belle feuille de route parce qu'il a toujours voulu jouer du beau soccer en Angleterre, même à l'époque où il y avait beaucoup de kick and run, et une autre équipe italienne, celle-là, qui a eu des superbes années. En fait, c'est un club référence dans les années 90. Mais de penser qu'en 2021, les jeunes de partout sur la planète voudraient se garrocher sur leurs écrans pour regarder Tottenham, AC Milan plusieurs fois par année, si tu les prends pour des cons, ça, ou c'est juste moi?
Oui, non, les jeunes ont le dos large, clairement, dans la vision de Florentino Pérez et de d'Agnelli, puisque ce sont les deux qui ont fait des liens entre les jeunes, les jeux vidéo, l'attention, la durée des matchs. Mais ça, ce sont des belles paroles pour masquer vraiment ce qu'ils souhaitent. C'est plus d'argent. C'est bien pour eux, l'UEFA en a trouvé, donc peut-être que ça arrangera un peu plus leurs affaires. Mais c'est pas du tout l'objet de la discussion. C'est pas pour les jeunes. Qu'ils font ça. Ils auraient pu commencer dans leur championnat respectif à essayer de régler certains problèmes, mais lorsqu'on voit par exemple notamment qu'en Espagne, les droits télévisés ne sont pas distribués de façon égale entre tous les participants, qu'on voit que le Real et le Barça négocient à part leurs droits télé, qu'on voit que les heures à laquelle sont diffusés les matchs rendent ça compliqué de pouvoir les regarder, les jours même où sont diffusés, le nombre de matchs, j'en parle avec des amis, mais la multiplication du nombre de matchs, tout ça fait en sorte que si on ajoute encore à ça le fait qu'on a du mal à se payer un billet, donc à payer un billet pour son enfant et d'aller au stade et tous ces rituels qui font une forme de continuité et la culture du foot, ce sont tous ces facteurs-là qui expliquent. Donc effectivement, en ajoutant le prix, je pense qu'on devrait faire l'exercice. Moi, j'ai les prix en France. C'est 100 € pour regarder tout le foot en France. Voilà. Donc comme mm-hmm. regarder toute l'offre de foot, c'est 100 €. Donc comme j'invite nos auditeurs à faire le même exercice au Québec. C'est vraiment au Québec, vous regardez l'offre de foot locale et un peu internationale. Dites-moi combien ça coûte.
100 € par mois, c'est...
Par mois, exactement, ouais. Par mois. Donc et tout ça fait en sorte qu'on arrive dans un espèce de contexte dans lequel, les audiences ne sont peut-être pas aussi fortes qu'elles ne l'étaient, et encore que c'est délicat parce qu'elles sont plus fortes pour les équipes nationales, elles sont plus fortes. Est-ce que les matchs, on compare des matchs qui étaient en clair, enfin qui étaient diffusés grand public, versus des matchs qui sont dans les chaînes privées, c'est très compliqué tout en sachant que on n'a jamais parlé autant de foot, il n'y a jamais eu autant d'émissions de foot, il n'y a jamais eu autant de contexte et de lifestyle foot comme dans l'histoire du foot. C'est fou à quel point ça a pris une place extraordinaire. Donc les jeunes, ils ont le dos large et comme je disais tantôt, il y a des problèmes qui sont ceux que Jean a soulevé sur le rôle de l'UEFA, parce que malheureusement on passe dans une position où c'est un peu entre la peste et le choléra, entre la Super League et la réforme de 2024. Il y a des problèmes qui ont été soulevé par ces clubs-là. Très bien. La solution est complètement à côté de la plaque. Les causes sont mal diagnostiquées. Et donc, on arrive à traiter des symptômes. Et c'est ça qui est le problème de ces clubs-là. Et il y a malheureusement, j'ai l'impression que ça va passer un peu sous le tapis, que là, c'est une victoire. Quand je lis que le foot a gagné, non, le football n'a pas gagné. Il y a encore de nombreux combats à mener pour qu'on n'ait pas cette discussion-là dans quelques années.
Jean, je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais Sid, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait différemment? Si tu mets ton chapeau, puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette compétition-là, c'était un non-sens, puis il ne fallait pas que ça passe tel quel. Mais si tu mets ton chapeau de propriétaire de club fondateur de cette Super League-là, si c'était à refaire, y a-t-il quelque chose qui pourrait être dit différemment, proposé, avancé différemment pour que ça passe mieux, Sid?
Bon, tellement de choses, mais si on reste dans un monde plutôt réaliste, vendredi, lorsque c'est le moment de voter, lorsqu'on est à l'ECA et que à l'association des clubs européens, que c'est le moment de voter la réforme de 2024, votez non et expliquez clairement qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme à 36 équipes, avec deux équipes qui sont repêchées par leur coefficient UEFA, avec la répartition des revenus, votez non et allez plus frontalement sur qu'est-ce qui ne va pas dans cette nouvelle réforme et qu'est-ce qui sont les points qui vous dérangent. Donc ça c'est déjà quelque chose. Même si prenez un miroir aussi et regardez que à vouloir toujours plus de revenus, demandez-vous si dans votre contrôle de dépenses, ce que vous faites a de l'allure. Parce que tous ces 12 clubs-là, ce qu'ils ont en commun, à part un ou deux, c'est qu'ils ont des énormes dettes et qu'ils ont des gestions financières qui sont catastrophiques depuis les années. C'est ça qui est aussi quelque chose qu'on ne veut pas trop discuter dans ces clubs-là. On dit on veut plus de revenus. Très bien. Je pense que oui, effectivement, je pense que la Ligue des Champions peut être mieux valorisée. Je pense aussi que ça vaut encore plus que ça ne vaut aujourd'hui, même si c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas ça le cœur du problème. C'est vraiment pas ça.
J'ai l'impression d'écouter Pierre-Yves McSween en ce moment, Sid. J'adore ça. Tu peux faire plus d'argent en allant chercher plus de revenus ou en économisant ou dépensant ton argent un peu mieux. J'adore ça. Au final, Jean, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui gagne dans toute cette histoire-là?
Ah oui, clairement. Clairement. Juste revenir un petit point, puis après je réponds à ta question. Oui, autre chose, quand on faisait le parallèle avec les sports américains. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un sport majeur avec donc des franchises dans laquelle il y aurait une franchise? Qu'est-ce qui se passe si une des franchises a 500 millions de déficit?
Ouais, 500 millions. Là, ça commence à être intense. En fait, il y a la redistribution des revenus en Amérique du Nord, mais pas à cette échelle-là. Moi, c'est ça que je comprends pas aussi.
Voilà.
C'est ça que je comprends pas aussi, les gars, parce qu'on a fait le parallèle, mais là, il y a peut-être quelque chose de très, très basic qui m'échappe. Mais en Amérique du Nord, tu payes un chèque important pour accéder à la compétition. Là, les clubs existent déjà, puis ils reçoivent un chèque de JP Morgan pour partir. Tu sais, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on s'en va.
Exactement.
Ils s'en vont recevoir un chèque pour aider en fonction de avec les pertes de la pandémie. Mais dans le fond, tu vas te chercher une subvention, alors que c'est le contraire. Tu es supposé d'allonger pour le privilège de participer à ça. Moi, c'est pour ça que le parallèle avec le sport nord-américain, je le comprends dans le sens où tu fermes en partie la ligue, mais ce qu'on veut faire, c'est complètement différent. JP Morgan se dit, il y a déjà de la valeur là, donc prends-en parce qu'au final, on va être capable de valoriser ça. Mais ce n'est pas parce que tu payes pour avoir le privilège d'accéder. Tu es juste en train de partir un club avec ceux qui ont envie de participer à la même genre de compétition que toi. Mais Jean, pour revenir à cette question-là, y a-tu quelqu'un ou quelque chose
qui est gagnant? Oui, il y a des gagnants, à coup sûr. À court terme, l'UEFA, parce qu'elle a évité cette scission. Et elle peut remettre sur la table ses projets. Semble-t-il que le projet 2024 pourrait être un petit peu amendé après ce qui s'est passé. On va attendre ce qu'il va voir cette semaine. Mais au moins, l'UEFA évite, je pense, d'ici l'horizon des 2-3 ans qui viennent, une scission véritablement grave. Il peut y avoir des débats, mais je pense que là, elle a un petit peu dégagé le gros problème. Qui est gagnant? La FIFA. La FIFA qui a pris de façon radicale parti aux côtés de l'UEFA, ce n'était pas évident au départ, hein, parce que Infantino est proche de Florentino Pérez et tout. La FIFA s'est rangée alors qu'il y a une lutte de pouvoir entre FIFA et UEFA parce que la FIFA a du mal à accepter tout le pouvoir que l'UEFA est en train de prendre au niveau économique, en particulier justement au niveau des grosses compétitions et des grands clubs. La FIFA va gagner, pourquoi? Parce que ça dégage le chemin et elle va pouvoir promouvoir son projet de Coupe du Monde des clubs, qui est un gros projet, 24 équipes, et qui aurait pris un coup dans le dos, clairement, avec la Super League. Indirectement, qui est-ce qui est gagnant? La Première Ligue. La Première Ligue, parce qu'elle a réussi à faire de l'ordre dans sa maison. Elle va conserver son monumental contrat télé qui va lui permettre de rester au sommet actuellement, qui aurait été un gros moins, hein, avec le départ ou non-départ, parce que les six avaient dit qu'ils resteraient quand même en Première Ligue, mais tu sais très bien que ça ne pouvait pas vraiment se faire comme ça. Donc la Première Ligue, elle aussi, va être gagnante. Et puis au bout du compte, au niveau image, qu'est-ce qui est gagnant? Et ça, c'est un petit peu rigolo quand tu regardes ça. T'es le PSG, tu t'es fait quand même un joli coup de pub, là, mine de rien. Parce que, honnêtement, dimanche soir, à quoi tu t'attends que le PSG soit dans cette liste-là? Et clairement, son absence, et d'ailleurs ça a été souligné dès dimanche soir, son absence et celle du Bayern ont été un des points, à mon avis, pour lesquels ça ne pouvait pas tellement coller, cette histoire-là. On en a un petit peu parlé au début. Donc, ils se sont fait une image, parce que dès le début, ils ont dit « Non, non, nous, on ne veut pas joindre, nous, on veut rester et continuer à changer les choses en militant auprès de… en travaillant et en militant auprès de l'UEFA. » Donc, ils font une image très monsieur propre. Quelque part. Donc, dans ceux qui ont gardé, qui n'ont pas été des traîtres, là, coup de poignard dans le dos, et qui ont essayé de garder une image assez propre. Donc voilà, en gros, un petit peu qui gagne. Les supporters, ils gagnent aussi parce qu'ils ont, en tout cas dans certains clubs, ils ont réussi à faire entendre leur voix et certaines revendications et qui au bout du compte, Boris Johnson a promis de regarder un petit peu les choses sur le statut des clubs, en espérant que ça va avancer et que ça va avancer en particulier sur l'accès au football. L'accès au football, c'est-à-dire revoir les prix des billets, revoir les abonnements. Les abonnements, parce que là, c'est complètement délirant. Et les jeunes dont Steve parlait, effectivement, et qui ont été ciblés, qu'est-ce qu'ils disent en général? Ce n'est pas qu'ils papillonnent, c'est qu'ils ne peuvent absolument pas actuellement s'abonner à des chaînes ou à des bouquets qui leur offrent, d'abord parce qu'ils veulent, ou en tout cas, ils leur offrent beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas, et pour des sommes complètement délirantes. Donc, ce qu'ils disent, non, c'est qu'on ne peut pas payer ça actuellement.
Oui, et moi, je me souviens à l'époque, quand j'allais voir des matchs plus régulièrement, début des années 2000, à Old Trafford, j'étais en Irlande souvent, puis j'avais de la famille qui ont des billets de saison à Old Trafford. Il y a beaucoup de ces billets de saison-là, à l'époque, appartenaient à des gens décédés. Parce que les familles continuaient de payer l'abonnement parce qu'à partir du moment où quelqu'un décédait, tu étais obligé de céder ton abonnement à quelqu'un d'autre. Tu ne pouvais pas le léguer dans ton testament à ta famille. Puis c'est ce qui faisait en sorte que les gens étaient rendus avec un arrière-grand-père décédé depuis 20 ans, mais c'était encore lui qui se pointait à tous les matchs. Tu sais, ça montre à quel point la demande pour certains clubs peut être féroce. Et dernière parenthèse, tu parlais de l'Angleterre puis du contrat de télé. Allez voir, c'est un exercice fascinant. Sky Sports, je pense qu'il y a eu un bon travail de reportage, de journalisme qui a été fait. Mais Sky avait tellement à perdre dans ce dossier-là. Allez lire et regarder les qualificatifs qui sont utilisés pour parler du projet, pour parler de l'attitude des propriétaires. Allez voir ça, là. C'est un petit exercice de recherche qui est vraiment fascinant. Ce qui est fascinant aussi, c'est... Oui, vas-y.
Dernier mot, au sujet de l'Angleterre, je pense que le Brexit change radicalement la donne de ce projet. Lorsque Boris Johnson est sorti et qu'il a dit qu'il allait regarder tout ce qu'il peut faire d'un point de vue législatif pour empêcher cette ligue, et notamment, on en a déjà un peu parlé à l'émission, mais au niveau des droits des joueurs étrangers, des permis de travail des joueurs étrangers, l'Angleterre, au travers maintenant du Brexit, et sur la Première Ligue, qui donc était 6 clubs des 12, quand même la moitié, a un pouvoir énorme. Et je crois, quand je parle de projet mal ficelé, que du côté de Agnelli et de Pérez, on a compté sur le droit européen qui donne beaucoup de effectivement de pas de privilèges, mais c'est pas le bon terme, mais qui aurait donné beaucoup de crédit à cette ligue-là. Je crois que d'un point de vue du droit européen, ils ont droit de faire du droit à la concurrence. Ils peuvent faire une autre ligue. Ils auraient pu même casser l'idée de refuser l'appel aux joueurs nationaux. Il y a peu de chances que ça tienne au niveau du droit européen, tout ça. Mais le Brexit, l'Angleterre, comme ça, c'est une autre paire de manches. Et je crois que cette ligue-là, finalement, dans cette situation, dans ce contexte-là, tant qu'il y aura un Boris Johnson ou d'autres politiciens qui auront à cœur l'intégrité du football en Angleterre, ne pourra pas voir le jour.
Mais avant le Brexit, il y a le Mexit. Ça, c'est José Mourinho qui se fait encore mettre dehors d'un club de Tottenham. Là, je voyais les chiffres passer. C'est quoi? C'est rendu à 70 millions de pounds que José Mourinho a empoché, pas pour son travail, mais pour être remercié par des clubs anglais. Ça vient quelques heures après l'annonce du fait que Tottenham est dans la liste des 12. Écoute, ça s'invente pas, ces niaiseries-là. Comment perdre la crédibilité? Pourtant, Tottenham était tellement sur la bonne voie avec les performances au cours des dernières années, un stade phénoménal. Il y a eu Harry Kane, il y a eu Son. Pochettino avait mis quelque chose de franchement intéressant sur le terrain. Puis là, tu te retrouves avec un changement d'entraîneur. Tu te retrouves avec Pochettino qui continue son parcours en Ligue des champions avec le PSG. Puis José Mourinho qui est congédié. Écoute, ça ne s'invente pas.
Non, effectivement, on ne sait pas véritablement l'impact de la Super League. Il y en a qui disent qu'apparemment ça a joué. Il y a l'idée aussi de cette fameuse coupe en fin de semaine où c'est peut-être plus difficile de renvoyer un coach lorsqu'il a gagné un trophée s'il parvenait à battre Manchester City pour avec Mourinho. Mais effectivement, Daniel Levy commence à s'inscrire un peu dans cette lignée de président propriétaire un peu nerveux. On avait quand même des choses plutôt intéressantes qui arrivaient avec Mourinho. Bien sûr, ça arrive avec un paquet de communications boiteuses, dont la dernière était sur le fils de Ole Gunnar Solskjaer. Donc, c'est toujours ça, c'est Mourinho, c'est toujours ce côté-là où c'est parfois fatigant, lassant, même si là, peut-être que au-delà de la Super League, il y a peut-être le risque de perdre un Harry Kane qui arrive à un âge arrive à son prime, à 27-28, et qui peut-être là commence à vouloir regarder ailleurs. Donc il y avait peut-être ce risque-là de lassitude qui a été évalué par Daniel Levy. Et Mourinho qui continue dans son modèle d'affaires. On est bientôt à 100 millions le terme exact, d'indemnité qu'il reçoit liée à ses licenciements. Je ne sais pas s'il y a un autre club qui voudra arriver justement au centième milieu. Piqué un peu pour Mourinho, dans le sens qu'il a plus cette touche qui semblait, voilà, qui l'animait à Porto, Real, à l'Inter, etc. C'est compliqué depuis son passage à Manchester United, en fait. Hein.
Ouais, et je trouve que tu résumes parfaitement le dossier José Mourinho dans à peu près tous les clubs dernièrement où il est passé. Tu es en train de dire, mettez-le dehors vite avant qu'il gagne un trophée puis qu'on soit pogné avec, parce que d'un point de vue PR, ça passera pas de le mettre dehors à ce moment-là. En veux-tu des scénarios tordus? En v'là. On salue José pour ça. Très rapidement, juste en quelques secondes, parce que le temps file. Jean, est-ce que c'est terminé là, pour Mourinho avec les grands clubs? Parce que là, à un moment donné, rendu là, tu peux peut-être lui donner un contrat, mais tu vas lui donner des peanuts puis dire « prouve-nous que ça fonctionne, puis on te payera dans 3 ans si ça fonctionne encore, non? »
Ah, je crois que ça devient vraiment difficile, parce que là, il s'est clairement grillé. Non seulement il s'est grillé au niveau financier, parce qu'on voit un petit peu où il va, mais au niveau de son attitude, ça fait 3 clubs, ça fait Chelsea, ça fait Manchester United, ça fait Tottenham, qui en veulent plus. J'ai du mal à le voir rebondir chez un des grands. Peut-être qu'un club un cran en dessous pourrait aller chercher, et encore, ça représente un salaire de 12 millions d'euros, je pense, qui est énorme déjà en soi. Donc, aller à l'étranger, Milan, un des 2 clubs de Milan, il a déjà fait l'Inter. Et les mine de rien, là, en ayant commencé et en ayant suivi cette carrière-là, ces options se limitent. Au lieu de s'élargir, comme un entraîneur, je dirais, qui a du succès, devrait faire normalement dans sa carrière, avoir de plus en plus de choix. Là, au contraire, ses options sont en train de se rétrécir de façon ultra rapide. Et au bout du compte, qu'est-ce qui va lui rester? Peut-être une sélection nationale, et puis voilà.
Ouais, la sélection nationale, ça pourrait être divertissant. Moi, il y a une place où je veux voir José Mourinho débarquer. Une. C'est à St. James's Park avec les Geordies pour coacher Newcastle. Ça là, les gars, mettez une caméra sur José 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va être combien, ça, Sid? 100, 200, 300 euros par mois. Étant donné que ça ne durera pas 2 ans, moi, je vais les payer, ces sommes-là, parce que ça va vraiment, vraiment valoir la peine. Yes. Le temps file, je le disais, on va se tourner maintenant vers notre segment à domicile. Sid, victoire, je pense, convaincante dans les circonstances. C'est sûr que c'était la moitié d'une équipe du Toronto FC en face, avec l'absence de Jozy Altidor, Chris Mavinga, Alejandro Pozuelo également, qui était MVP de la Ligue en 2020. Mais quand même, victoire du CF Montréal, 4-2 face à Toronto. C'était le premier match de la saison. Si tu as... Et là, je sais que c'est un gros défi que je te demande. Si tu as un élément le plus satisfaisant à identifier, ce serait quoi? Ça peut être une performance, ça peut être le résultat, la manière, comment Wilfried Nancy a géré tout ça. Si tu en as un à choisir.
Alors, c'est hors terrain, mais je te dirais que c'est le climat. Quand on faisait la programmation de l'émission, je t'ai dit, c'est une victoire qui fait du bien. C'est beaucoup plus léger. On en a parlé pendant plusieurs mois. Mais là, cette victoire-là, elle fait du bien. Et à tout le monde. Les joueurs, le staff technique, les médias, et évidemment, avant tout, les partisans. Ça permet quand même, de véritablement se lancer dans la saison du CF Montréal avec peut-être des lunettes qui sont celles qu'on doit avoir, hein, comme celles des partisans supportés et celles de médias critiques, mais moins sceptiques, moins cyniques. Et pour rapport à ça, je pense qu'on on va donner ce fameux bénéfice du doute dont on parlait la semaine passée, que la MLS ne voulait pas donner à Montréal. Mais cette victoire, elle fait du bien. Elle fait du bien. Et puis, effectivement, la manière, 4 buts, c'est spectaculaire. Les remplaçants qui font des différences, Wilfried Nancy qui met sa patte aussi. Il y a beaucoup d'éléments, mais si je devais en retenir un, c'est juste qu'on dirait qu'il y a un gros nuage qui s'est lentement dissipé, et ça, c'est apprécié.
Ouais, parlant de cynisme et de bénéfice du doute, un petit bond de 7 places au Power Rankings de la MLS pour le CF Montréal, qui était bon au dernier. Bon, ça les laisse quand même 20e, mais un bond de 7 places t'a quand même réveillé. T'as secoué le pommier à une couple de personnes, certainement du côté de MLSsoccer.com. Il fait un bon travail quand même. Allez lire les articles. On prend ça avec un grain de sel aussi. On est conscient que quand on met quelqu'un bon dernier, on est un peu en train de leur envoyer un uppercut puis de leur dire « Hey, venez nous revoir la semaine prochaine, vous allez voir, ça va être le fun ». Jean, cette victoire-là, performance, victoire de 4-2 face au Toronto FC, t'en retiens quoi la semaine dernière?
En partie ce que Sid a dit. Maintenant, si tu regardes un petit peu sur le terrain, c'est l'application. C'est l'application, parce que qu'est-ce qu'on a vu? C'est des concepts de jeu qu'on a vu l'année dernière mis en place. Tentative d'appliquer une relance sur 2 ballons, tout de suite essayer de jouer sur les côtés. Et là, une accélération progressive sur les côtés. Ça, on a vu cette mise en place, encore une fois, avec beaucoup de joueurs, avec un essentiel de joueurs qui étaient là l'année dernière, qui n'a pas vécu la saison dernière, Miller Mihailovic. Tu peux même t'y rajouter Toe et Kissa qui sont arrivés en fin de saison dernière, mais sinon l'ensemble du groupe avec quand même tous les concepts mis en place la saison dernière. Et ça s'est quand même vu. La façon dont ça a enchaîné très, très vite sur les côtés, la façon dont les espaces se sont ouverts et ont été créés pour justement aller les chercher. Tu vois tout de suite la dynamique du côté Kisa, du côté Boyard. Ça a été quelque chose de recherché et qui a vraiment été insisté. Ça a été super, super efficace. Peut-être qu'il y a, il y a certainement même du mieux au niveau de la tenue du ballon. Tu n'es pas obligé de jouer à ce rythme-là pendant tout un match. C'est certainement, tu dois être capable de le contrôler un petit peu mieux. Et d'un côté, tu ne peux pas vraiment en dire plus parce que c'était tellement indigent. Non, il faut le dire quand même. Parce que c'était terrible. C'était de la bouillie en face. Ça n'a pas de sens. Hein. Mais dans le positif, Oui, c'est une équipe qui a montré de la personnalité. On parlait un petit peu d'envie. Ben c'est quoi l'envie? On l'a vu quand même. Hein. C'était aller au bout et puis recommencer. Quand on parle d'envie, c'est vraiment ça. Et recommencer encore, ça passe, c'est très très bien. Mais on a vu des choses bien. Mihailovic, au niveau individuel, a été une confirmation, je dirais, plus qu'une révélation, une confirmation. Et puis tu vois que dans un certain système et avec quelque chose qui fonctionne là, il peut apporter quelque chose.
Oui, parce qu'on l'a senti vraiment plus en confiance. Écoutez, les gars, c'était incomparable. L'année passée, tu le voyais arriver sur le terrain, regarder à droite, regarder à gauche. Il était comme un chevreuil sur le bord de l'autoroute. Et jamais vraiment assis dans son match, toujours très, très, très fébrile, alors que là, on l'a senti concentré, puis beaucoup plus tourné vers l'instinct du marqueur qu'Olivier Renard, de toute évidence, avait remarqué chez lui pour lui offrir, pour le transférer ici à Montréal. Deux, trois petites choses. Tu parlais de la tenue du ballon. Moi, j'aime voir Victor Wanyama, oui, contrôler le tempo, mais surtout se tourner vers l'avant davantage. Il y avait tellement de passes jouées vers l'arrière en 2020 où tu disais, t'es un bœuf, t'es un monstre. T'as juste à prendre le bras, tu vas tourner autour du gars. Même si c'est Michael Bradley, tu vas réussir à te tourner et à jouer des passes plus positives qui vont permettre à l'équipe de se projeter vers l'avant. J'en ai vu davantage
Un
samedi
peu
dernier,
plus,
puis ça, je pense que c'est encourageant. La présence de Kiza, Jean, t'en as parlé tantôt, ça va pas juste être efficace pour le côté gauche, mais ça va aussi libérer Broguillard. Parce que l'an dernier, tu étais une défense.
clairement.
Tu te préparais pour affronter Montréal. C'est pas compliqué, là. Tu disais, ferme à gauche, parce qu'en face, il y a juste sur le côté droit qui vont vers l'avant. De l'autre bord, tu as Yukka Raitala ou Jorge Corrales. Ça ira jamais vers l'avant. Donc, pas besoin de stresser avec ça. Puis la dernière chose, c'est que quand ces gars-là se retrouvent haut sur le terrain, on a demandé de centrer, un, beaucoup plus vite, puis deux, à beaucoup plus de monde parce qu'on exige que plus de joueurs se retrouvent dans la surface de réparation. Ça, c'est intéressant en nombre, mais c'est intéressant aussi en qualité parce que l'année passée, t'envoyais dans la surface de réparation, mais t'envoyais qui? T'envoyais Maxi Urruti. T'sais, à quelque part, tu as aussi bien demandé d'aller au drapeau de coin tout de suite puis d'attendre pour célébrer avec ses coéquipiers. Il n'allait jamais la mettre au fond. Alors que là, si tu y vas en nombre, tu mets plus de ballons dans la surface, ça devient productif de récupérer le ballon plus haut. Mais sinon, tu récupères le ballon plus haut pour faire quoi? Pour passer en retrait après. Ça sert à rien. Moi, ça, c'est vraiment les éléments que j'ai retenus, que j'ai trouvés très intéressants. Si tu te projettes pour le prochain match maintenant, à la même heure, 14h samedi, Sid, ça va être un match qui n'est pas à domicile. Celui-là, on va considérer Miami. À domicile, d'ailleurs, ça va être weird de chez weird le jour où tu vas jouer dans ce même stade-là, mais avec des gens dans les estrades, parce que tu vas jouer contre Miami, qui lui va être à domicile dans ton stade à toi. Bref, ça c'est une petite parenthèse, mais on se gardera ça pour plus tard. Maintenant, si tu regardes le match de la fin de semaine prochaine, tu t'attends à quoi, Sid, ou tes attentes se situent où?
Alors, je disais tantôt confirmation, et confirmation, c'est ça, c'est de voir est-ce qu'on reconduit le même système, notamment est-ce qu'on est capable d'appliquer les mêmes principes. Cette envie-là qu'on a vue chez Broguillard et chez Wanyama, notamment, elle va se dupliquer. Est-ce qu'on reconduit Waterman qui a été un petit peu en difficulté dans la défense à 3? Donc, c'est plus cette forme de confirmation, sachant aussi que voilà, il y a des joueurs comme Hurtado qui sont rentrés, qui ont fait des différences intéressantes. Et aussi en face, on a une équipe comme Nashville qui, oui, a été menée de 0 très rapidement face à Cincinnati, mais après qui a enchaîné une trentaine de tirs, record du club, et qui a envie finalement de se détacher un peu de cette image d'équipe qui met le bus, parce qu'ils ont été meilleure défense dans l'Est, et qui a envie de montrer voilà, qu'il y a un nouveau visage. Donc, est-ce qu'eux aussi vont être capables de confirmer leur belle saison précédente? Donc, c'est un match voilà, avec des débuts de réponse. Qui vont être assez intéressants parce que je pense qu'au bout de deux matchs, par exemple pour un joueur comme Bassong, deux matchs sur le banc, Torres, deux matchs sur le banc. Donc voilà, il y a des choses qui vont se dévoiler, se révéler durant ce match. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que va faire Wolf Nancy.
Ouais, tu parles du système. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année passée, là, souvenez-vous, la minute qu'on voyait une défense à 5, on se disait, oh boy. Sors les somnifères, là, on s'en va faire une grosse sieste d'une heure et demie parce que Thierry Henry, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que soit il croit pas vraiment en son équipe ou il pense qu'en face, c'est vraiment meilleur. Alors que là, tu gardes le même système, mais l'attitude, l'état d'esprit est complètement différent. C'est une équipe qui peut être excitante quand même, qui est entreprenante et qui réussit à créer des chances offensivement. Donc, ça, c'est une très belle nouvelle pour cette année, même si dans le système, tu peux sur papier avoir l'air défensif, mais dans le concret, quand tu arrives sur la pelouse, ben, c'est une autre histoire. Puis ça, c'est pas mal plus excitant, je pense, pour des supporters qui ont donné là, dans la frustration depuis le début de l'année ou depuis quelques saisons sur le terrain. Ça fait du bien d'avoir un spectacle. Et parlant de spectacle, ça commence à se préciser un petit peu plus pour les Jeux olympiques avec le tirage au sort, Jean, du côté de l'équipe nationale canadienne. Ben oui, féminine, parce que les hommes, encore une fois, ils seront pas cette année.
Non, clairement. Bon, on savait que ça allait forcément, vu la position du Canada, que ce serait pas forcément. Ça peut pas. Il ne peut pas y avoir de groupe simple. Ce que là, le Canada a eu, c'est le Japon, qui est en une certaine transition. C'est certainement pas l'équipe qui a fait deux finales de Coupe du Monde 2011-2015, mais qui remonte un petit peu et qui, de toute façon, conserve un niveau de jeu quand même. Toujours bon. Et surtout, qui sera pays organisateur. Donc, ça, ce sera... Et donc, qui se prépare très clairement pour cette échéance. Donc, ce sera pas évident. Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, c'est un inconnu. Parce que si on regarde l'équipe d'Angleterre qui a été... les Canadiens ont battu il y a deux semaines, c'est sensiblement prenable. Hein? Mais tu portes une équipe qui, elle aussi... Bon, de toutes les équipes qu'on a vues à la Coupe du Monde il y a deux ans, c'est certainement celle qui a le plus souffert sur les deux ans, qui a certainement connu la plus grosse baisse de niveau. Est-ce que c'est dû à la COVID? Est-ce que c'est dû peut-être à un nombre de... que la plupart des joueuses étaient beaucoup plus focalisées sur relancer la WSL, relancer la Ligue qui connaît un bel essor en Angleterre, plutôt que sur la performance au niveau de la sélection nationale? C'est possible. Une équipe de Grande-Bretagne, il y a une demande qu'il n'y ait pas que des joueuses anglaises. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Même si tu mets une ou deux joueuses écossaises, tu sais qu'elles jouent déjà dans cette ligue-là et tout. Côté des Canadiennes, eh ben, elles jouent pour beaucoup d'entre elles avec ces joueuses-là. Donc, je pense qu'elles les connaissent et que ce n'est certainement pas une montagne, la Grande-Bretagne. Je pense que c'est sans doute un adversaire qui est prenable pour les Canadiennes. Dernière équipe du groupe, c'est le Chili. Ça, c'est l'équipe que tu dois absolument battre parce que c'est une équipe qui fait des progrès, qui a une formidable gardienne, mais qui est encore en dessous, du niveau des Canadiennes.
Bon, les gars, allons-y avec, parce que ça, les Jeux olympiques, on va pouvoir en parler en long et en large. On aura le privilège de suivre cette équipe-là cette année. Là, on dévoile des calendriers, on dévoile des équipes de description, on dévoile plein d'affaires. Donc, jusqu'à nouvel ordre, là, il y a des Jeux olympiques. On n'est jamais à une mauvaise nouvelle près depuis un petit peu plus d'un an, mais on va garder les doigts croisés. Allons-y avec les questions posées sur Twitter, hashtag LDSF. Plusieurs questions très intéressantes pour notre segment Sujet chaud. On commence, Sid, avec Émile qui nous envoie du costaud là, avec cette question-là. En fait, il y a deux questions en une. Allons-y avec ce qu'Emile nous demande. Arsenal, avec les clubs comme Arsenal, etc., on a vu un grand tour d'excuses. Est-ce que les pots cassés, les relations UEFA-club, entre les clubs et la Premier League aussi, par exemple, peuvent être réparées ou est-ce que c'est une guerre à finir? Et l'autre partie de la question d'Emile, c'est est-ce qu'il y a des implications de l'autre côté de l'Atlantique, puisque du côté de la MLS, c'est une ligue fermée? Si tu le permets, je vais répondre à cette partie-là. Pour moi, il y a des répercussions, oui, dans le sens où ça doit éveiller la conscience au fait que l'autre, et là, je parle un continent versus l'autre, réfléchit pas de la même manière que toi. Je vois pas comment, de ce côté-ci de l'Atlantique, comme de l'autre, tu n'as pas été capable de faire passer ton idée de ligue fermée, tu pourrais ici faire la promotion, relégation, au cours des 5, moi, même les 10 prochaines années, je le vois pas. Je vois pas comment la mentalité nord-américaine, c'est pas un reproche, là, c'est juste qu'on a le cerveau viré dans ce sens-là avec le sport de ce côté-ci de l'Atlantique. Comment tu continuerais d'aller supporter une équipe de deuxième division sans avoir l'impression que toi, ça vaut pas la même chose? Donc, s'il y a une prise de conscience que c'est peut-être le même sport, mais il est pas conçu, perçu de la même manière, mais je pense qu'on évitera peut-être des faux pas du côté de la MLS. Mais dans l'immédiat, pour répondre à la question d'Émile, non, je ne pense pas qu'il va y avoir des répercussions tout de suite de ce côté-ci. Maintenant, pour ce qui est des relations Ligue-Club, Ligue-UEFA, Club-UEFA, Cyd, t'en penses quoi?
Écoute, c'est beaucoup de politique. Ce matin, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse de Javier Tebas. Il était en compagnie des présidents du Betis, de Villarreal, de Séville, Levante aussi, si je m'abuse. Puis bon, ils ont beaucoup pesé leurs mots. Ils ont une frustration de ce qui a été fait, mais en même temps, ils savent qu'ils sont amenés à avoir des relations d'affaires avec les différents présidents. Donc, on voit tout de suite que on écartait même l'idée de sanctions d'un point de vue de Tebas, on écartait justement l'idée de les sortir de la Liga, et voilà, on attaquait les idées, mais on n'a pas attaqué les hommes. Donc c'est énormément beaucoup de politique du côté de l'Angleterre, et je pense de Glazer, de Kroenke et de Henry, qui sont les propriétaires de United, Liverpool et d'Arsenal, pas dans bon ordre. Il faut aussi comprendre, voilà, que c'est un sport différent, qui peut pas être dans, qui a pas le même modèle d'affaires que les sports US, et que les fans sont passionnés et considèrent que, qui à juste titre selon moi, que le sport leur appartient. Donc je pense qu'il y a un peu plus d'empathie dans une réforme un peu plus structurelle même du football est attendu de leur part. Je pense à Liverpool qui avait essayé d'augmenter un peu drastiquement leur billet de saison, c'était mal passé. Donc il faut continuer, voilà, à faire preuve d'écoute et de comprendre que le but d'un stade, c'est pas forcément remplir tes loges, c'est pas forcément de l'aseptiser au maximum, c'est ce qui fait l'essence même du foot, c'est les supporters, c'est le bruit, c'est la passion, c'est tout ça. Donc je pense que oui, ça il faudra un peu plus que des vidéos de larmoyantes comme a fait Henry, il faudra des actes qui montrent qu'on a à cœur les supporters.
Jean, on va faire du pouce avec ce que Cyd vient de dire en passant la question de Adam Nouboud ou peut-être Adam Nouboud. D'ailleurs, envoie-moi un petit tweet, là, Adam ou Adam, parce que je sais jamais si je le prononce de la bonne manière. Fait que si tu nous écoutes en ce moment, je présume que si tu nous envoies des questions, c'est parce que tu nous écoutes. Envoie-moi la précision, comme ça, je ferai plus l'erreur dans le futur. Monsieur Nouboud, tiens, Jean nous demande. Quelle punition serait appropriée pour les clubs de Premier League? D'abord, est-ce que ça prend une punition maintenant qu'ils se sont rétractés? Et si oui, ce serait quoi?
On va vers ça parce que Alessandro Seferin, au départ, au départ. D'abord, sa réaction lundi a été la furie totale parce qu'il avait des relations personnelles assez proches avec Agnelli. Agnelli est le parrain de son fils à Seferin. Imagine la réunion de famille, non?
Ouais. Okay. On va faire ça donc, sur Zoom, cette année, ça ne dérange pas.
Il l'a pris vraiment, évidemment, très perso, et il parlait de poignard dans le dos, parlait de traître, etc. Donc, ensuite, quand ça s'est un petit peu écrasé, il a dit, bon, bah, on va réaccueillir ces clubs-là. Et puis, depuis hier soir, ça change un peu de ton, parce qu'il y a quand même une volonté, et en particulier autour de lui, de d'autres clubs, d'autres fédérations qui demandent à ce qu'il y ait des sanctions. Est-ce que ça va être une sanction au niveau sportif? C'est-à-dire, il y a quand même trois de tous ces clubs qui ont voulu monter cette Super League. Il y en a trois qui sont en demi-finale de la Ligue des Champions.
Ah ouais.
Chelsea, Manchester City, Real. Donc, est-ce que ça va poser là? Est-ce que ça va être une suspension pour une saison, pour deux saisons? Est-ce que ça va être des sanctions qui vont être prises dans chaque ligue à l'intérieur? Par exemple, est-ce que la première ligue, comme on demande un petit peu, va déduire des points pour ces clubs-là? Là, on est pour l'instant un petit peu dans le questionnement de voir est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Quelles vont être les sanctions les plus appropriées? Les suspendre, les 12 pour une saison, C'est radical et je ne suis pas sûr que, je parle des 12 en bleu, hein, que l'UEFA puisse se le permettre maintenant, même s'il y en a beaucoup qui disent que ce serait tellement symbolique et quelque part, ça permettrait justement de redonner une sorte de nouveau souffle à la Ligue des Champions. Tu enlèves ces 12-là, tu sais forcément que la Coupe de la Ligue des Champions aura un nouveau visage l'année prochaine. Donc, on est pour l'instant au moment du questionnement. Je ne peux pas dire actuellement qu'il va y avoir des sanctions. Je sais simplement qu'on on en parle. On en parle que ce soit au niveau européen ou bien au niveau local. Et je pense surtout en Angleterre. Je n'ai pas entendu vraiment parler de sanctions en Espagne et en Italie, où c'est que là-bas, on a quand même pas mal plus la main mise sur, sur toute l'organisation. Mais on est actuellement au moment il est question de vraiment de sanctions et de les envisager. On est en train de regarder un petit peu quelle forme ça va avoir.
Oui, mais une sanction pour la Ligue des champions l'année prochaine. Liverpool, Tottenham et Arsenal sont en train de régler ça eux-mêmes. Là.
Yeah.
Ils sont même pas là. Ouais. Fait que t'as pas besoin de les sanctionner. Alors... et moi, je pense que le fait que 48 heures après la proposition se soit tombée, je pense que ça va atténuer beaucoup de choses. Si on avait tenté puis persisté pendant des semaines, yeah. Et d'ailleurs, il y a un tweet de Ian Dark, qui est un commentateur, un descripteur chevronné, que j'apprécie beaucoup, qui est toujours très drôle aussi. Suivez-le si vous voulez sur Twitter. Ian Dark qui a dit, ils ont signé pour 23 ans pour la Super League, ça a duré 2 jours. Je trouve que le contraste est marquant. Yeah. L'ambition qu'on avait au moment de sortir cette nouvelle-là, puis le fait qu'on ait la queue entre les deux jambes, la tête entre les deux jambes, au bout de quoi, 48 heures? Hallucinant. Bon, on y va avec Stéphane Duarte Simoes qui pose une question extraordinaire, Sid. Justement, parce que Jean le disait, tu as des équipes qui étaient de ces clubs fondateurs qui sont dans les derniers milles de la Ligue des champions. Stéphane nous demande, qu'est-ce qui est plus gênant? Entre aller au bal de finissant avec ta cousine ou le Real qui gagne la Ligue des champions en 2021?
C'est excellente question. Après, les joueurs ne sont pas responsables de ça. On l'a vu très bien dans la façon de faire qu'ils ont été complètement gardés dans le noir. C'est même... Maldini, qui est directeur technique du Milan AC, a appris, comme tout le monde, dimanche à minuit, que le Milan AC faisait partie de la compétition. Donc, au niveau de tous les managers qui ont d'abord, qui sont pour la plupart sortis, dont Klopp, dont Guardiola, donc c'est quand même à souligner, ils sont pas responsables de la situation. Donc, si Zidane arrive à amener le Real chercher sa 14e Ligue des Champions, parce que c'est le club Ligue des Champions, d'ailleurs, le Real Madrid, je pense qu'il y a rien de gênant de ça. C'est sûr, certain que Pérez aura un petit sourire en coin, mais je pense que voilà, les joueurs sont pas responsables de ce fiasco, et il y a rien de gênant à ce qu'il la remporte le cas échéant.
Éric Michaud, lui, Jean nous demande, est-ce que Chelsea a une chance de se rendre en finale de Ligue des Champions selon vous?
Oui, complètement. Là, on reparle vraiment de... clairement de sportif. Oui, de ce qu'on a vu dans la progression de cette équipe avec Thomas Tuchel, elle a vraiment les moyens. En analysant un petit peu comment, par exemple, comment Liverpool s'est planté totalement face au Real, je pense qu'il y a les moyens, effectivement, de voir là où Madrid a des forces et là où il y a clairement des faiblesses, que le système de jeu de Tuchel est capable, à certains points, d'absorber et d'être faire éponge face à ce qui vient du côté de Madrid, et même d'aller chercher sans doute des ouvertures à partir du moment où tu regardes un petit peu comment Madrid s'organise et quel est le véritable point fort de Madrid, c'est autour de Casemiro. C'est vraiment là que c'est la barre. Il t'empêche de progresser plus loin, ou en tout cas ralentit suffisamment ta façon de jouer. Le Chelsea a les moyens d'aller plus vite que Liverpool, à mon avis, au niveau fraîcheur et au niveau... Il y a moins de recherche dans le système d'attaque, ça va droit devant, et Tuchel est en train de trouver un petit peu le personnel, avec Havertz, Werner, toi, Pulisic revient bien, Ziyech aussi. Donc c'est une équipe qui a vraiment les moyens. Ensuite, en finale, soit Manchester City, qui viennent de battre d'ailleurs... Ou le PSG, c'est tout à fait jouable. Donc oui, pour répondre, Chelsea a les moyens. C'est sans doute pas l'équipe que je mettrais favorite pour y aller, mais certainement pas une équipe où je dis non, il n'y a aucune chance. Ils peuvent très bien battre le Real et aller le gagner. Ouais.
Céd, on va terminer avec la question du staff. On nous demande, sachant tout le bruit qui a été fait autour de cette Super League et qu'on a été capable de faire reculer des grands clubs comme ceux-là. Est-ce que ça vous donne espoir ou ça vous déçoit quant au traitement qu'on réserve au racisme dans le monde du foot qui est là depuis des années?
Ah, ça me déçoit énormément, effectivement. Il y a beaucoup d'ailleurs de mimes qui, par rapport à l'attitude de l'UEFA contre le racisme et contre la Super League, en prenant Bob l'éponge, c'est très marrant, aller voir sur les réseaux sociaux. Non, ça me déçoit énormément. Et puis, il faut qu'on arrête d'être aveugle. Il y a des règles à suivre pour participer à ces compétitions. Dans ces règles-là, il est très simple de mettre des comportements qu'on juge inadéquats, des propos qu'on juge inadéquats, et à partir du moment ils sont dans ces règlements-là, il y a des sanctions. Donc, il faut qu'on arrête de faire comme si l'UEFA n'avait aucun rôle à jouer par rapport à ça. Et je comprends que le racisme, c'est une question de société, mais il y a des comportements qui sont inacceptables et que n'importe quel établissement, n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise peut mettre dans ces façons de faire et sanctionner le cas échéant. Donc là, c'est une hypocrisie sans nom. Et l'UEFA a des moyens, ils ont à les utiliser. Je crois qu'ils ont été encore plus exposés par rapport à leur manque de bonne volonté, j'ose le dire, pour éradiquer ce problème.
Mais en voyant à quel point, à partir du moment où ça touche le portefeuille de ces grands clubs-là ou le portefeuille de l'UEFA, est-ce qu'on ne vient pas, je ne veux pas dire de découvrir parce qu'on était conscient, mais est-ce qu'on n'a pas là un levier qu'on pourrait utiliser, puis à partir du moment où les supporters et tout le monde se mobilisent, puis je pense que c'est ça qui est frustrant, c'est que la mobilisation pour éviter une Super League, c'est pas la même pour éviter que Raheem Sterling subisse des traitements racistes au stade ou sur les médias sociaux. Donc c'est là où il y a un gap monumental à combler, puis je comprends tout à fait la frustration, mais est-ce que la dernière semaine a peut-être permis de tirer quelques enseignements sur comment on pourrait, entre guillemets, forcer les clubs, les ligues, l'UEFA, la FIFA, à contribuer à éradiquer ce problème-là?
C'est sûr que les sponsors et donc l'argent ont leur rôle à jouer. Liverpool a perdu un sponsor d'ailleurs qui a refusé de s'associer. D'ailleurs, c'est assez ironique, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont dit on n'est pas associé à la Super League. Ils ont vu le backlash qu'ils pouvaient avoir, notamment à Amazon par exemple. Mais moi je l'ai dit, je le répète, c'est plate que ça soit sur leurs épaules, mais les joueurs, c'est bon, arrêtez de jouer. Ce qui s'est passé à PSG et Istanbul, si ça se repasse 10 fois dans une saison, je t'assure que l'UEFA te règle ça assez rapidement, merci, sur les suspensions, les huis clos, les moins 10 points, je ne participe pas à la prochaine compétition. Demandez au club anglais durant les années 80 s'ils ont trouvé ça drôle, les sanctions de l'UEFA à leur égard. Ils ont des moyens. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est des choses qui tiennent à cœur de nombreuses personnes. Et d'agir.
Jean, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus en terminant?
Je comprends ce que c'est de dire. Faisons attention parce que la suspension, il y a eu 36 morts. Et donc, on pourra arriver à cette décision-là. Hein. Donc, ce qui me gêne et ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, les réactions et la façon dont l'UEFA réagit est beaucoup trop peu. Tu regardes l'histoire Kamara Kudela avec le Slavia Prague et de Slavia Rangers. Il y a 10 matchs de suspension. Oui, 10 matchs. Regarde. En 10 matchs UEFA d'ailleurs, puisque ça prend en compte les matchs club, mais aussi la sélection. Ça veut dire qu'il ne participera pas à l'Euro. C'est un premier pas. Je pense que c'est pas assez et qu'il faut que ce soit systématique. Tu te souviens qu'il n'y a, pas si longtemps, on avait des sanctions de quoi 5 000 euros pour des fédérations alors qu'il y avait des banderoles et des chants racistes dans les stades. Clairement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, être capable de mettre la barre beaucoup plus haut, comme dit Sid, effectivement, prendre la référence de PSG Istanbul, de prendre ce moment-là, que ce soit d'ailleurs sur le terrain, que les joueurs systématisent, je dirais quasiment, effectivement, ce genre de réaction, qu'ils voient que ça avance pas et que l'UEFA prenne aussi conscience de ça et réagisse extrêmement fortement. Et à partir de là, peut-être qu'on va pouvoir avancer.
Ouais, parce que 10 matchs, ça semble peu dans notre tête. Là, si on pense aux ligues majeures, au baseball, 10 matchs, c'est pas grand-chose. Mais dans une réalité où les joueurs en Europe jouent 40, 50, quand tu vas vraiment au bout de toutes les compétitions, des fois pas loin de 60 matchs, ben 10 matchs particulièrement de haut niveau, des meilleures compétitions, écoute, ça peut te ruiner une carrière et c'est pas long. Donc, ce genre de sanctions-là deviennent, c'est ce que je retiens de tes propos, Jean, standard. Que ce soit pas une minimum. Sanction exceptionnelle non. qui est supposée non. d'envoyer un message. Non, non, c'est juste le standard, tu te comportes de cette manière-là, bang, t'es out pour une longue période et t'as des matchs à huis clos, par exemple, pour les clubs. C'est là que ça va faire mal. Je reviens au point sur le portefeuille. Ça va faire mal aux finances des clubs, puis je pense que tu as raison. C'est à ce moment-là, peut-être qu'on pourra amorcer un virage qui sera certainement pas, malheureusement, aussi brusque que ce qu'on a vécu pour la Super League au cours de la dernière semaine. Les gars, merci. Toujours un plaisir.
Merci beaucoup.
Merci aussi.
Merci à vous d'avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire tout au long de la semaine. Hashtag LDSF. On pourra échanger sur ce qui se passe avec la Super League, ce qui s'en vient avec la Ligue des champions, le CF Montréal qui s'en va du côté de Nashville en fin de semaine aussi. Et continuez également à partager le contenu rds.ca/baladodiffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.